Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je voulais un premier extrait du roman de Françoise Sagan, Un certain sourire. Nous avions passé l'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps comme les autres. Je m'ennuyais un peu, modestement. Je me promenais de la machine à disque à la fenêtre pendant que Bertrand discutait le cours du spire. Je me souviens qu'à un moment, m'étant appuyé à la machine, j'avais regardé le disque se lever lentement pour aller se poser de biais contre le saphir, presque tendrement, comme une joue. Et je ne sais pourquoi, j'avais été envahie d'un violent sentiment de bonheur, de l'intuition physique débordante que j'allais mourir un jour, qu'il n'y aurait plus ma main sur ce rebord de chrome ni ce soleil dans mes yeux. Je m'étais retournée vers Bertrand. Il me regardait et quand il vit mon sourire, se leva. Il n'admettait pas que je fusse heureuse sans lui. Mes bonheurs ne devaient être que des moments essentiels de notre vie commune. Cela, je le savais déjà confusément. Mais ce jour-là, je ne pus le supporter et me détournai. Le piano avait esquissé le thème de Lone and Sweet, une clarinette le relayant, dont je connaissais chaque souffle. J'avais rencontré Bertrand aux examens de l'année précédente. Nous avions passé une semaine angoissée, côte à côte, avant que je ne reparte pour l'été chez mes parents. Le dernier soir, il m'avait embrassée. Puis il m'avait écrit, distraitement d'abord. Ensuite le ton avait changé. Je suivais ses gradations, non sans une certaine fièvre, de sorte que lorsqu'il m'avait écrit « Je trouve cette déclaration ridicule, mais je crois que je t'aime », j'avais pu lui répondre sur le même ton et sans mentir « Cette déclaration est ridicule, mais je t'aime aussi ». Cette réponse m'était venue naturellement, ou plutôt phonétiquement. La propriété de mes parents, au bord de l'Yonne, offrait peu de distractions. Je descendais sur la berge, je regardais un moment les troupeaux d'algues, ondoyants et jaunes à la surface, puis je faisais des ricochets avec des petites pierres douces, usées, noires et agiles sur l'eau comme des hirondelles. Tout cet été, je répétais « Bertrand » en moi-même et au futur. D'une certaine manière, établir les accords d'une passion par lettre me ressemblait assez. À présent, Bertrand était derrière moi. Il me tendait mon verre. En me retournant, je me trouvais contre lui. Il était toujours un peu vexé de mon absence à leur discussion. J'aimais pourtant assez lire, mais parler littérature m'ennuyait. Il ne s'y habituait pas. « Tu mets toujours le même air, » dit-il. « Remarque, je l'aime bien. » Pour cette dernière phrase, il avait pris une voix neutre, et je me souvins que nous avions, pour la première fois, entendu ce disque ensemble. Je retrouvais toujours chez lui des petites poussées sentimentales, des jalons dans notre relation, dont je n'avais pas gardé le souvenir. « Il ne m'est rien, » pensais-je soudain, « il m'ennuie. Je suis indifférente à tout, je ne suis rien, rien, parfaitement rien. » Et le même sentiment d'exaltation absurde me prit à la gorge. « Je dois aller voir mon oncle, le voyageur, » dit Bertrand, « tu viens ?» Il passait devant et je le suivais. Je ne connaissais pas l'oncle voyageur et je n'avais pas envie de le connaître. Mais il y avait quelque chose en moi qui me destinait à suivre la nuque bien rasée d'un jeune homme, à me laisser toujours emmener sans résistance, avec ses petites pensées glaciales et glissantes comme des poissons. Et une certaine tendresse. Je descendais le boulevard avec Bertrand. Nos pas s'accordaient comme nos corps la nuit. Il me tenait la main. Nous étions minces, plaisants, comme des images. Tout au long de ce boulevard et sur la plateforme de l'autobus qui nous emmenait retrouver l'oncle voyageur, j'aimais bien Bertrand. Les chaos me jetaient sur lui. Il riait et m'entourait d'un bras protecteur. Je restais appuyée sur sa veste, contre la courbe de son épaule, cette épaule d'homme si commode pour ma tête. Je respirais son parfum. Je le reconnaissais bien. Il m'émouvait. Bertrand était mon premier amant. C'était sur lui que j'avais connu le parfum de mon propre corps. C'est toujours sur le corps des autres qu'on découvre le sien, sa longueur, son odeur. D'abord avec méfiance, puis avec reconnaissance. Bertrand me parlait de l'oncle voyageur qu'il semblait peu aimer. Il me disait sa comédie de voyage. Car Bertrand passait son temps à chercher les comédies chez les autres, à tel point qu'il vivait un peu dans la crainte de se jouer lui-même une comédie dont il n'était pas conscient. Ce qui me paraissait comique, ce qui le rendait furieux. L'oncle voyageur attendait Bertrand à la terrasse d'un café. Quand je l'aperçus, je dis à Bertrand qu'il n'avait pas l'air mal du tout. Déjà, nous étions près de lui. Il se levait. « Luc, » dit Bertrand, « je suis venu avec une amie, Dominique. C'est mon oncle Luc, le voyageur. » J'étais agréablement surprise. Je me disais, « Tout à fait possible, l'oncle voyageur. » Il avait les yeux gris, l'air fatigué, presque triste. D'une certaine manière, il était beau. « Comment s'est passé le dernier voyage ? » dit Bertrand. « Pas mal. J'ai réglé une succession assommante à Boston. Il y avait des petits juristes poussiéreux dans tous les coins, très ennuyeux. Et toi ?»« Notre examen est dans 2 mois, » dit Bertrand. Il avait insisté sur le « notre ». C'était là le côté conjugal de la Sorbonne. On parlait de l'examen comme d'un nourrisson. L'oncle se tourna vers moi. « Vous passez aussi des examens ?»« Oui, » dis-je vaguement. Mes activités, si minimes fussent-elles, me faisaient toujours un peu honte. « Je n'ai plus de cigarette, » dit Bertrand. Il se leva et je le suivis du regard. Il marchait vite, avec souplesse. Je pensais parfois que cet assemblage de muscles, de réflexes, de peau mate m'appartenait. Et cela me paraissait un étonnant cadeau. « Que faites-vous à part les examens ? » dit l'oncle. « Rien, » fis-je. « Enfin, pas grand-chose. » Je levai la main en signe de découragement. Il l'attrapa au vol. Je le regardais, interloqué. Pendant 1 seconde, très vite, je pensais. Il me plaît. Il est un peu vieux et il me plaît. Mais il reposait ma main sur la table en souriant. Vous avez les doigts pleins d'encre. C'est bon signe. Vous réussirez à votre examen. Et vous serez une brillante avocate, bien que vous n'ayez pas l'air loquace. Je me mis à rire avec lui. Il fallait m'en faire un ami. Mais déjà Bertrand revenait. Luc lui parlait. Je n'écoutais pas ce qu'il disait. Luc avait une voix lente, de grandes mains. Je me disais, c'est le type même du séducteur pour petites jeunes filles de mon genre. Déjà, je me mettais en garde. Pas assez pour ne pas avoir un petit coup de déplaisir quand il nous invita à déjeuner pour le surlendemain, mais avec sa femme. Avant de déjeuner chez Luc, je passais 2 journées assez ennuyeuses. Au fond, qu'avais-je à faire ? Travailler un peu un examen qui ne me mènerait pas à grand-chose, traîner au soleil, être aimé, sans grande réciprocité de ma part, par Bertrand. Je l'aimais bien d'ailleurs. La confiance, la tendresse, l'estime ne me paraissaient pas dédaignables et je pensais peu à la passion. Cette absence d'émotion véritable me semblait être la manière la plus normale de vivre. Vivre, au fond, c'était s'arranger pour être le plus content possible, et ce n'était pas si facile. J'habitais une sorte de pension de famille uniquement peuplée d'étudiantes. La direction avait l'esprit large et je pouvais rentrer assez facilement à 1 ou 2 heures du matin. Basse de plafond, ma chambre était grande et complètement nue, car mes projets de décoration du début étaient vite tombés. Je demandais peu à un décor, si ce n'était de ne pas me gêner. Il régnait dans la maison un parfum de province que j'aimais bien. Ma fenêtre donnait sur une cour fermée d'un mur bas, au-dessus de laquelle s'accroupissaient les ciels toujours rognés, maltraités de Paris, qui s'échappaient parfois en fuyantes perspectives au-dessus d'une rue ou d'un balcon, émouvants et doux. Je me levais, j'allais au cours, je retrouvais Bertrand, nous déjeunions. Il y avait la bibliothèque de la Sorbonne, les cinémas, le travail, les terrasses des cafés, les amis. Le soir, nous allions danser, ou bien nous rentrions chez Bertrand. Nous nous allongions sur son lit, nous nous aimions, et après nous parlions longtemps dans le noir. J'étais bien. Et il y avait toujours en moi, comme une bête chaude et vivante, ce goût d'ennui, de solitude et parfois d'exaltation. Je me disais que j'étais probablement hépatique. Ce vendredi-là, avant de me rendre chez Luc pour déjeuner, je passais chez Catherine et y restais une demi-heure. Catherine était vivante, autoritaire et perpétuellement amoureuse. Je subissais son amitié plutôt que je ne la choisissais, mais elle me considérait comme quelqu'un de fragile, de désarmé, et j'y prenais plaisir. Souvent même, elle me paraissait merveilleuse. Mon indifférence devenait poétique à ses yeux, comme elle l'avait été longtemps à ceux de Bertrand, avant que ce subit désir si exigeant de possession ne l'eût pris. Ce jour-là, elle était éprise d'un cousin. Elle me fit le long récit de cette idylle. Je lui dis que j'allais déjeuner chez des parents de Bertrand et m'aperçus à ce moment-là que j'avais un peu oublié Luc. Je le regrettais. Pourquoi n'avais-je pas, moi aussi, un de ces interminables et naïfs récits d'amour à faire à Catherine ? Elle ne s'en étonnait même pas. Nous étions déjà tellement figés dans nos rôles respectifs. Elle racontant, moi écoutant. Elle conseillant, moi n'écoutant plus. Cette visite me déprima. Je me rendis chez Luc sans grand enthousiasme, même avec effroi. Il allait falloir parler, être aimable, se recréer à leurs yeux. J'aurais voulu déjeuner seule, tourner un pot de moutarde entre mes mains, être vague, vague, complètement vague. Quand j'arrivai chez Luc, Bertrand était déjà là. Il me présenta à la femme de son oncle. Elle avait quelque chose d'épanoui, de très bon, de très beau dans le visage. Grande, un peu lourde, blonde. Belle enfin, mais sans agressivité. Je pensais que c'était le genre de femme que beaucoup d'hommes voudraient avoir et garder, une femme qui les rendrait heureux, une femme douce. Étais-je douce ? Il faudrait le demander à Bertrand. Sans doute je lui prenais la main, je ne criais pas, je lui caressais les cheveux, mais je détestais crier, et mes mains aimaient ses cheveux chauds et drus, comme ceux d'une bête. Françoise fut tout de suite très gentille. Elle me montra l'appartement qui était luxueux, me versa à boire, m'installa dans un fauteuil avec aisance, attention. La gêne que j'avais ressentie de ma jupe, de mon sweater un peu usé, déformé, s'atténuait. On attendait Luc qui travaillait. Je pensais que je devrais peut-être simuler quelque intérêt pour la profession de Luc, ce que je ne pensais jamais à faire. J'aurais voulu demander aux gens « Êtes-vous amoureux ? Que lisez-vous ? » Mais je ne m'inquiétais pas de leur profession, souvent primordiale à leurs yeux. « Vous avez l'air soucieux, remarqua Françoise en riant. Voulez-vous un peu de whisky ? » « Volontiers. Dominique a déjà une réputation d'ivrogne, dit Bertrand. Vous savez pourquoi ? » Il se leva d'un bond et vint près de moi, l'air important. Elle a la lèvre supérieure un peu courte. Quand elle boit en fermant les yeux, ça lui donne un air de ferveur sans rapport avec le scotch. En parlant, il avait pris ma lèvre supérieure entre le pouce et l'index. Il me montrait à Françoise comme un chiot. Je me mis à rire et il me lâcha. Luc entrait. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou, ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un non, pour un oui. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont importants.